Alors, si vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes à l'atelier Réorienter sa vie. Alors, c'est une grande joie pour nous de vous accueillir. Quand je dis nous, c'est que. Donc, il y aura. Je serai. Donc, moi, je suis Charles-Henri Deslois. Je suis coach, formateur. Voilà, je m'intéresse beaucoup aux questions de transition de vie. Et puis, bien sûr, je serai avec Régis et Audrey, que vous avez entendu ce matin. Et notre idée, c'est de travailler avec vous autour de cette question, au fond, mais oser réorienter sa vie. Alors, on vous propose un cheminement en quatre étapes, parce qu'en fait, vous allez travailler. D'abord, on aura un temps, on va revenir un peu sur le témoignage de Régis et Audrey, parce qu'ils nous ont dit quelque chose ce matin, mais maintenant, on va pouvoir approfondir ça. Ils vont notamment nous parler un petit peu des étapes de leur changement. L'idée, c'est que ça puisse vous servir aussi à vous. Et puis, avant ça même, on va regarder un petit peu leur film. Parce qu'ils ont un super reportage qui a été fait par le Jour du Seigneur. On va y revenir. Et puis, vous aurez la possibilité, dans un deuxième temps, de leur poser des questions, qu'elles y répondront. Et puis, il faudra faire un peu atterrir tout ça en vous. Et puis, peut-être commencer à faire un premier travail sur, au fond, bah, certes, à partir de ce témoignage, qu'est-ce que ça me dit pour moi ? Donc on aura un temps de partage en sous-groupe par rapport à ça. Et puis, je vous proposerai en particulier quelques pistes ensuite pour comment réorienter sa vie si vous avez envie de commencer un travail, vous. Alors comment le faire ? Une petite méthode, quelques questions à vous poser que vous pourrez commencer sans doute à travailler pendant l'atelier, mais surtout après. Voilà. C'est ça le programme de l'après-midi. Alors, sans transition, si la technique le permet, on va regarder le reportage des Hanouilles avant leur témoignage. Ça vous va ?
Je m'appelle Audrey Nanouille, je suis mariée à Régis, nous avons 7 enfants et nous habitions jusqu'à il y a 2 ans en région parisienne à Saint-Cloud.
On était bien installés d'une certaine manière dans nos vies, mais on sentait qu'il nous manquait un petit peu quelque chose. Voilà, c'était un peu métro boulot dodo, même si encore une fois nos existences étaient tout à fait heureuses.
On mettait sur ce manque le terme de nature. Il nous manquait une relation à la nature, une proximité avec la nature. Le déclic, ça a été un séjour où j'ai désherbé pendant 15 jours et tous les matins, je me réveillais avec une énergie que je ne m'étais encore jamais connue. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose là qu'il faut creuser. Nous avions à peu près 50 ans. Si on voulait changer de vie, c'était maintenant. Et on avait toujours eu ce désir, après que les enfants soient plus ou moins élevés, hein, parce qu'il nous en restait encore quelques-uns d'âge scolaire, on souhaitait vraiment s'engager dans un projet qui avait du sens et qui vraiment nous fasse vivre, et surtout un projet commun. Moi, c'était la vigne, et Régis, depuis son plus jeune âge, il est de Bordeaux, c'était le vin. Donc tout d'un coup, mais ça s'est fait extrêmement rapidement, tout d'un coup, on s'est dit, mais c'est ça, voilà. Nous allons nous engager dans la vigne.
Bon, Audrey, oui, tu peux me donner la crépine.
Merci. Donc ça, elle est là. Là.
L'idée initiale était qu'Audrey se forme, moi je garde mon travail bien au chaud, et qu'une fois que les choses seraient un peu décantées, on puisse aller plus vite et enclencher. Et puis finalement, il y a une opportunité qui s'est présentée pour moi de quitter mon travail dans de bonnes conditions, et ça a été effectivement une première pierre, ou un premier signe de la providence finalement, d'un petit caillou qu'elle posait sur notre chemin, parce que cette formation, on a pu la faire ensemble.
Stop, va devant.
Allez, là, c'est pas terminé, là. Encore un petit moment. Je ne jette pas la pierre parce que c'est super compliqué de commencer quand on n'a pas l'habitude de reculer avec nos mains.
Ok, on est là, on est droit, on est droit. Là, on tourne trop là. Tout doucement, tout doucement. Recule un petit peu encore. Stop. Et là, on est dans la
place. Ah, mais c'est pas mal.
Bravo, je ne sais pas comment t'as fait, mais bravo. Fait.
Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur. Le grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre.
Il y avait ce désir de changement de vie. Mais l'idée de départ n'était pas de le faire tout seul, mais en association avec l'Église.
Et à ce moment-là, on s'est rappelé qu'on avait rencontré, au début de notre cheminement, une communauté, l'éco-hameau de la Bénissons Dieu. Ce sont quelques familles chrétiennes qui, au moment de Laudato aussi, ont écrit à tous les évêques pour leur dire ben voilà, nous souhaiterions vivre une vie plus solidaire, plus fraternelle, plus proche de la nature, plus écologique. Et le diocèse de Lyon leur a mis à disposition quelques maisons dans le village de la Bénissons Dieu. On les avait rencontrés et on s'était dit c'est merveilleux, mais il n'y a pas de vigne. Et puis, un an après, on regarde de plus près, on se dit quand même c'est exactement ce qu'il nous faudrait. Donc voilà, c'est une vie insérée dans un village et en même temps où on ferait le vin, on apporterait en fait cet aspect un peu voilà, de terroir. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'à 15 km, il y avait la côte rouennaise et qu'un domaine était disponible.
Alors, tout d'abord, merci infiniment d'être là pour les premières vendanges du domaine de la Bénissons Dieu. Donc, chaque raisin compte, chaque raisin est à respecter, chaque raisin est à aimer. La météo est mitigée, mais il ne va pas pleuvoir, donc tout va bien. La vigne est belle.
On avance, chacun prend une épinette et un seau.
Oui, et surtout un binôme. Allez, bon travail.
C'est vrai que depuis le début, on a le sentiment de quitter notre zone de confort. Donc, quitter votre zone de confort, ça s'accompagne d'inquiétude, d'angoisse. Et ça, je l'ai ressenti la veille de partir pour ma première expérience en ville. Et là, j'ai vraiment fait un acte de foi en me disant, voilà, il y a cette parole de la Bible, avance en eau profonde. Je veux dire que c'est ce premier pas me coûte, mais c'est là que le Seigneur va nous rejoindre et va nous aider.
C'était effectivement élargir l'étiquette d'attente. À travers ça, je veux dire que moi aussi, effectivement, les angoisses, les inquiétudes n'ont pas manqué, encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a eu énormément de travail ce dernier mois depuis qu'on s'est installé ici. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, les inquiétudes humaines ou mondaines, oui, elles existent. Et en même temps, ce dont je me rends compte en arrivant ici pour essayer de faire du vin, bien, comment dire, le vigneron, il n'est maître de très peu de choses. Donc, il a forcément à se dessaisir. Sinon, il fait un ulcère à l'estomac et bon, c'est pas terrible pour sa vie. Donc, pourquoi il est maître de si peu de choses? La météo décide, l'effet millésime, chaque millésime est différent. Des vignerons pas très loin d'ici, sur la côte rouennaise, ont subi des gels de printemps au printemps, la grêle au cours de l'été, les fortes chaleurs ou la sécheresse, donc les intempéries, oui, ça, et pourtant, on n'y peut rien. Donc, fondamentalement, ce métier, cette activité, vous amène à un dessaisissement. Et là, c'est une école de vie.
Les millésimes à Coccinelle sont de réputation des beaux et des bons millésimes.
En tout cas, on peut l'espérer.
Pour le moment, c'est jamais que du jus de raisin. Mais c'est bon. C'est sucré.
Et c'est extraordinaire de voir à quel point ce début de cheminement, qui a été porté par notre foi, vraiment, je pense qu'on n'aurait pas été jusqu'au bout si on n'avait pas eu ces phrases « Avançons-nous profonde, élargis les piquets de ta tente » qui nous ont poussé vraiment à aller au-delà de ce que nous pensions pouvoir faire. Mais au fur et à mesure, on s'est dit mais pourquoi avons-nous attendu si longtemps? Il y a une urgence à changer de vie. Et c'est maintenant qu'on s'en aperçoit. Et c'est quand on a décidé de changer de vie, on s'est dit, mais c'est, voilà, il fallait le faire encore plus tôt. Et je vous encourage, changez de vie.
Je ne sais pas par où il faut commencer, il faut peut-être juste déjà... Donc ce reportage a un an exactement, il a été tourné le 21 et le 28 septembre dernier, les jours où on faisait les vendanges l'an dernier, donc il y a un petit peu moins d'un an. Et il a été diffusé sur France 2, les émissions religieuses de Jour du Seigneur, en février je crois.
Janvier.
Donc c'est Karine Poidatz, une réalisatrice... talentueuse, parce qu'elle a réussi, je trouve, vous nous direz, à tirer de belles images et de notre modeste domaine. Vous voyez, c'est plutôt des parpaings et des ruines qu'on a rachetés. C'est pas des bâtiments, c'est pas un domaine bordelais, rutilant ou bourguignon. Donc c'est une réalité modeste et qui a été qui retrace bien finalement, bien sûr, notre état d'esprit il y a un an et le chemin parcouru. Qui nous a amené à devenir donc vignerons après une vie plutôt urbaine et parisienne. Par où commence-t-on ?
Moi, en fait... Merci, Alice. Il y a une question qu'on a envie de vous poser, c'est au fond, ce matin, vous avez pas mal témoigné des choses qui ont déjà eu lieu depuis que... Mais avant ça, là, vous avez fait un changement de vie, vraiment. Puis les gens qui viennent ici, je pense qu'ils doivent se poser aussi la question de l'orientation de votre vie. Et ce qu'on aimerait bien savoir, c'est au fond, mais par quelles étapes vous êtes passé pour passer de non, c'était pas Boulogne, mais...
Saint-Cloud,
à la bénisson Dieu.
On peut répondre... dire en deux mots qui en est.
Oui, c'est vrai, j'ai un peu peur de répéter un peu ce qu'on a dit dans le... Je me rappelais pas, en fait, on l'avait pas vu depuis un an, mais j'ai l'impression que tout est dit... Toutes les étapes sont données. Enfin bon. Donc Audreyne et Régis, à Nouille, donc nous habitions à Saint-Cloud. Moi j'étais chancelier du diocèse de Nanterre, donc une juriste, canoniste, depuis 11 ans.
Moi je travaillais aux missions étrangères de Paris, les MEP. Donc tous les deux on travaillait pour l'Église catholique. J'étais journaliste, j'étais responsable de leur agence d'information Église d'Asie. Donc un travail de journaliste derrière son écran ou de temps en temps en Asie, mais tout à fait rien à voir avec la Terre en tout cas.
qu'est-ce qui s'est passé? C'est, en fait, comme je le disais à l'écran, on avait une vie confortable, on était assez occupés, hein, avec cet enfant, chacun un travail. On ressentait un manque. On avait on avait deux désirs, c'était que la fin de notre vie professionnelle soit l'objet d'un projet commun.
De couple, je veux dire.
Oui, un projet de couple. Et on avait, enfin, je ressentais peut-être davantage les choses que Régis, l'impression que notre vie était éclatée. On habitait dans un appartement, tous les matins, chacun partait faire sa vie, et puis on revenait le soir, mais c'était à la fois chargé, il n'y avait pas d'unité entre nous. Enfin, c'était un peu le sentiment que j'avais. Et c'est vrai, comme je le dis dans le documentaire, quand la dernière est rentrée à l'école, j'ai eu le sentiment en fait de lever la tête hors de l'eau, parce que vous imaginez bien voilà, quand il y a beaucoup d'enfants, ils sont petits, on réfléchit pas, c'est vraiment la gestion de l'urgence un peu. Et comme ils grandissaient, je commençais à avoir un peu plus de temps de réflexion. Je me suis dit, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on change de vie, qu'on retourne à la campagne. Ça avait été un peu récurrent pendant toute notre vie. Régis avait souvent essayé de faire du télétravail, ça n'avait jamais marché. Et voilà, je ne voyais pas du tout comment réaliser ce rêve.
Qui était peut-être plus le rêve de Audren que le mien, parce que moi j'avais, j'allais dire bêtement, l'idée, voilà, en tant que père de famille, c'est moi qui avais le salaire le plus important, même s'il n'était pas bien gros, il était quand même supérieur à celui de mon épouse, qui faisait donc plus bouillir la marmite. Donc on se dit toujours, bah, il faut la faire bouillir cette marmite, donc gardons quelques sécurités. Donc le changement de vie, au départ, oui, c'était plus l'idée de Audren, peut-être.
J'avais eu cette expérience de 15 jours dans la campagne où j'avais désherbé, où j'avais vraiment expérimenté une super énergie. Donc voilà, il y avait quelque chose sur lequel ce désir reposait. J'ai ensuite rencontré une amie qui travaillait aux impôts et qui me dit, voilà, je prends une année off pour faire un an de maraîchage biologique. Et donc, c'était un peu un déclic. Je me suis dit, mais attends, il y a des gens complètement fous pour faire ça. Et j'ai regardé l'offre de formation qu'elle suivait, enfin, dans l'organisme qu'elle suivait, et je voyais, et j'ai vu ouverture d'un BTS vigne et vin en septembre 2017. Et pour moi, vraiment, ça a fait tilt. Enfin, je veux dire que le changement de vie, il y a des flashs. C'est des choses toutes petites qui, pour l'extérieur, paraissent vraiment peu de choses. Vous voyez, cette expérience d'énergie dans la nature, cet ami qui me parle, ce BTS vigne et vin. Et je suis rentrée à la maison et j'ai dit à Régis, mais j'ai trouvé, on va faire du vin.
Parce que il y a des flashs comme ça, et puis il y a des choses sous-jacentes qui mûrissent, qui sortent petit à petit au fil du temps. C'est-à-dire qu'on avait 50 ans tous les deux, donc on se dit, voilà, bon, on ne sait pas comment vont évoluer les retraites, mais on a encore pour 15-20 ans de vie professionnelle, si on reste dans les métiers qui sont les nôtres aujourd'hui. Et honnêtement, voilà, on ne se disait pas, on ne sautait pas de joie en se disant qu'on allait continuer pour Audren Chancelier, moi journaliste au MEP, c'était des super métiers qui ont du sens, qui sont chargés de signification. Mais voilà, je ne me voyais pas continuer ça pendant 20 ans encore, pour dire les choses de manière simple. Et donc on était prêts à ce changement. Après, l'autre chose sur laquelle je pense qui était sous-jacente et qui était solide, c'était de se dire, si on doit changer, s'il faut changer quelque chose pour les 15 à 20 ans avant qu'on soit trop décrépit professionnellement, il faut que ce soit un projet de couple, parce qu'effectivement c'était notre aspiration, construire, reconstruire quelque chose à deux. Quand je dis reconstruire, la vie de famille, voilà, on l'a construite, mais les boulots, ça reste quand même, en région parisienne, métro, boulot, dodo. Chacun un peu de son côté. Donc, il y avait une aspiration à construire quelque chose ensemble.
Et parallèlement, on avait nos deux aînés qui étaient assez engagés en écologie. Nous, clairement, ce n'était pas du tout notre orientation. Mais on a une fille qui s'appelle Claire-Marie qui a regardé des documentaires en boucle sur zéro déchet, etc. Et notre fils, celui qui est séminariste, qui s'éclairait à la bougie, qui prenait plus qu'une douche par mois. Enfin,
froide, c'est tout. Voilà, plus que par mois.
Et qui nous disait, mais voilà votre. Votre mode de vie, ça va pas. Et il nous emmenait voir Demain. Alors, Demain, pour moi, je voulais pas aller le voir parce que pour moi, c'était vraiment le film de Bobo par excellence. Et en même temps, j'ai trouvé ça génial. Et il y avait. Ce qui m'a frappé, c'est que voilà, il y avait des exemples extraordinaires. Et puis, il y avait une dame qui a dit mais en fait, si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même, quoi. Il faut que je commence par moi. Et ça, je l'ai reçu. Et je me suis dit mais oui, moi aussi, voilà, je vais changer. Et puis, voilà, il y a eu cette rencontre. Avec cet ami. Et puis, il faut aussi dire que Régis, ça faisait longtemps qu'il réfléchissait sur le vin. Enfin,
oui, c'est-à-dire que quand Audrey m'a dit « j'ai une amie aux impôts, métier sexy entre tous », je ne sais pas s'il y a des inspecteurs des impôts parmi vous, mais bon, peu importe, sur le qui fait du maraîchage biologique. Et donc, je lui dis bah, « c'est super, bon, le maraîchage, l'amour des poireaux et moi, ce n'est pas tout à fait ça voilà, ». Et je savais en plus, comment dire, que d'un point de vue technique, le maraîchage, c'est un métier extrêmement demandeur en expertise. Enfin, je veux dire, on ne s'improvise pas vigneron, c'est vrai. Mais on s'improvise encore moins maraîcher. C'est un métier extrêmement dur physiquement, à mes yeux en tout cas. Peut-être qu'il y a des maraîchers ici qui me démentiront. Mais extrêmement technique aussi par tout un tas de raisons. Et donc le vin, oui, moi ça me parlait plus parce que mes premiers stages d'étudiant pour gagner de l'argent, c'était dans le monde du vin. Puis ensuite j'ai bifurqué. Mais j'avais trouvé chez ces gens du vin... les gens ouvriers de chez, maîtres de chez, propriétaires de châteaux, des gens qui travaillaient dans le négoce, il y avait un feu, peut-être un peu fort comme expression, mais il y avait quelque chose qui les animait, qui était l'amour du produit, l'amour du vin, qui est un produit qui n'est pas nécessaire à la survie de l'humanité, on peut se passer de vin, malheureusement, mais on peut, mais qui est surtout un produit culturel, c'est un produit d'échange, c'est un produit de lien, ça crée du lien. Et donc, j'avais senti ça du bout des doigts il y a 30 ans. Et donc, lorsqu'il a été question pour nous de faire, non pas un retour, mais un tour à la terre, parce que ça fait deux ou trois générations que du côté de nos familles, il n'y a pas vraiment de lien à la terre, c'était évident que c'était le vin.
Oui. Et en fait, ce qui nous a frappé après, c'est que, voilà, donc quand je dis ça à Régis a dit... Oui, et on va aller aider les monastères. Parce qu'il avait lu un article le matin même disant que les monastères vinicoles, les monastères qui cultivaient de la vigne, avaient besoin de main-d'œuvre pour vinifier. Parce que voilà, il faut une expertise supplémentaire pour la vinification, puis c'est quelquefois très prenant en temps, et les moines et moniales n'ont pas toujours ce temps-là. Ça, c'est un flash en fait. C'est quelque chose, on s'est dit ensemble, ok, on va faire. C'était pas du tout acté. Et on a commencé à en parler à quelqu'un qui nous a dit « Oui, super, allez voir tel abbé qui va vous conseiller. » J'ai demandé à faire un stage dans une abbaye, l'abbaye orthodoxe de Solan qui fait du vin bio. Et en fait, voilà, on a un peu creusé le sillon de rencontres. On a lu Pierre Rabhi, La sobriété heureuse, il y a eu Laudato si. Il y avait les journées paysannes. Les journées paysannes, c'est un ensemble qui s'est créé il y a 30 ans. Et vraiment, ce qui m'a frappé, c'est celui qui a un peu fondé ça, disait, voilà, c'était le thème de la triple alliance, l'alliance de l'homme avec Dieu, de l'homme avec la femme et de l'homme avec la terre. Et ça a vraiment mis des mots sur ce que je ressentais sans pouvoir vraiment l'exprimer. Et puis, on a découvert un peu les enjeux écologiques. C'est tout ce qu'on essaye de voir, c'est tout ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vraiment... On est rentré là-dedans et on a découvert à quel point il était, enfin, ça avait du sens, voilà. Après, l'équation économique n'étant pas du tout résolue, la question était que je quitte mon travail, que je me mette, enfin, que je me forme, et puis Régis, voilà, ce serait joint au programme, enfin, au projet plus tard.
Et puis finalement, comme on le dit dans le documentaire, dans le reportage, pardon, les choses se sont enchaînées. C'est-à-dire que moi, il y a eu une opportunité effectivement pour quitter mon travail. Donc pour dire les choses franchement, avec un chèque, enfin avec une rupture conventionnelle, donc un peu d'argent devant moi. C'était la première fois de ma vie que j'avais un peu d'argent au-delà d'un mois d'économie, de salaire à peu près, quoi, voilà. Et cet argent nous permettait d'envisager effectivement à la fois de se former et puis de voir un peu plus loin. Donc les choses se sont enclenchées d'une manière aujourd'hui qu'on décrit, qu'on relit comme providentiel, dans le sens que cette formation, un bac pro vigne et vin, qu'on a pu faire ensemble pendant un an, on a pu la faire ensemble, justement. Alors, les stages, on ne les a pas faits au même endroit, mais on l'a faite ensemble, cette formation. Et puis ensuite, on s'est lancé donc, sur cette piste des monastères viticoles, donc les monastères qui ont une activité viticole, avec l'idée... Parce que on, malgré tout, dans ce changement de vie, on trace des plans sur la comète. Donc il faut bien qu'on se dise qu'un jour, il faut qu'on assure des arrières. Et à notre âge, avec notre manque d'expérience, de capitaux et notre grand âge, on s'était dit que ce n'est pas raisonnable d'aller s'installer tout seul, de racheter un domaine viticole tout seul et de s'installer, comme on dit dans le monde agricole, s'installer tout seul. Donc on voulait le faire en association avec l'univers qu'on connaissait, qui était le nôtre, qui était celui de l'Église. Et partout où on remue une pierre en France ou en Europe, là où il y a de la vigne aujourd'hui, il y avait des moines. Ils ont mis les moines en Bourgogne, ont mis en valeur, les plus grands terroirs en Champagne, mais partout finalement. Mais c'est une histoire qui s'est écrite plutôt à l'imparfait. Il n'y a plus tellement de moines ou de moniales qui sont actifs dans la viticulture. Il n'y en a que trois en France, trois catholiques, trois monastères catholiques et un monastère orthodoxe. Et donc notre idée était de nous proposer nos services à un de ces quatre, et de voir s'il y avait une piste d'association possible. Eux prient, travaillent la vigne, et nous, on vinifie avec eux, on commercialise. Enfin, tous ces moments où un moine ou une moniale est appelé à la chapelle, c'est quand même 7 fois par jour pour les catholiques, c'est autant de temps qu'il ne peut pas travailler au chai. Quand ça fermente, il faut y être tout le temps. Quand il faut traiter la vigne, il faut y être tout le temps. Un vigneron, il est dans sa vigne de janvier à octobre. Donc voilà, on s'est dit, il y a une complémentarité, on va essayer de leur proposer une solution pour réinventer les frères convers. Vous savez, autrefois, il y avait les frères de cœur, puis les frères convers, qui étaient un cercle concentrique. Ils avaient moins d'obligations à la chapelle, et ils travaillaient. C'était à peu près ça qu'on avait dans la tête. Mais ça, c'était notre idée.
Et on s'est dit que ça mettrait peut-être un petit peu de temps à se faire, et qu'on avait intérêt à faire des stages et à voir un peu ce qui se faisait dans le monde, puisqu'on avait rencontré ces trois monastères, mais voir un petit peu ce qui se faisait dans les autres monastères viticoles du monde. Et puis le fait de faire des stages autour du monde, ça me permettait d'en faire plusieurs. Parce que vous voyez, les vendanges ne sont pas toujours à la même période partout. Donc on s'était dit, et puis on se retrouvait tous les deux aussi libres, donc on s'est dit, voilà, on va faire un tour du monde, on va commencer par Cana, en Galilée, et on va finir par la Chine. Bon, parce qu'on avait commencé notre vie conjugale comme coopérant Fidesco en Chine. Et disons que sur les contreforts du Tibet, il y a toute une histoire qui s'est écrite avec les missions étrangères de Paris, où travaillait Régis, avec l'évangélisation de villages tibétains. Ils avaient adapté la vigne et aujourd'hui, il y a des vignes dans ces contreforts du Tibet. Et vous voyez, moi j'arrive le premier jour de mon stage donc, à l'abbaye de Solan. Et je rencontre des bénévoles, enfin d'autres volontaires comme moi. L'un avait fait 4 mois de stage en Israël dans un monastère cistercien, et l'autre était le fondateur d'une association Sentier du Ciel qui mettait en valeur un domaine vinicole sur les marches tibétaines. Et vous voyez, pour moi, ça a été un peu... Enfin, c'était juste un rêve qu'on avait. Et puis tout d'un coup, je voyais des personnes concrètes qui représentaient une possibilité de faire effectivement ce qu'on avait rêvé. Et ils m'ont dit, mais appelle-les. Et effectivement, ces personnes nous ont dit tout de suite, oui, oui, vous pouvez venir. Vous voyez, c'était comme si... Moi, je trouvais que c'était complètement déraisonnable. Enfin, c'était vraiment de l'ordre du rêve. Et puis, il y avait quelque part des gens qui disaient, mais oui, allez-y. Donc, on s'est dit, on y va. Vous voyez, c'est...
Donc voilà, on va passer dans trop non plus. Donc on est parti pendant un an sur les routes du monde, en travaillant un mois par-ci, un mois par-là, donc en Israël, en Géorgie, en Chine... Au Japon, rapidement en Indonésie, retour en France, on a travaillé dans un de ces monastères catholiques, et puis on est parti aux États-Unis dans une trappe, un autre monastère trappiste en Californie qui faisait du vin, puis on est rentré, puis il fallait. Et là, on arrivait un peu, d'une part, un peu au bout de nos finances, et puis non pas nos rêves, mais on se rendait bien compte que la piste qu'on avait discernée, celle d'une association avec les monastères, n'allait nulle part, parce que les trois monastères catholiques en France qui font du vin, ils n'avaient pas vraiment besoin de nous. Je ne leur jette pas du tout la pierre, mais c'est très compliqué pour un organisme qu'est un monastère de s'associer aussi étroitement avec une famille qui n'a pas 20 ans d'expérience, qui a charge d'âme, etc. Enfin, pour plein de raisons, c'était sans doute assez prudent de leur part de nous dire gentiment que c'était compliqué pour eux, elles, de s'associer avec nous. Donc nous, en tout cas, on voyait notre piste des monastères partir dans le mur. Donc, il faut qu'on aille vite, peut-être, un petit peu.
Vous êtes parfait.
Et donc, là, il y a eu, non pas un temps de flottement.
Alors, d'abord, on nous avait proposé de partir en Chine pendant un an, reprendre ce projet. Et donc, on s'est dit, mais on va avoir besoin de plus d'expérience en termes de travaux en verre, c'est-à-dire de travaux de printemps, parce qu'on avait fait des stages de vinification autour du monde, mais la vigne, on l'avait moins touchée, sauf dans nos stages respectifs. Donc, nos amis nous proposent un stage, enfin, un woofing dans une propriété en Bourgogne, voilà, où on a vraiment travaillé avec les ouvriers viticoles. Et c'est à ce moment-là, donc, au mois de mars, qu'on s'est dit, ben voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire l'année prochaine. Et c'est là où, en fait, on a fait un pas dans la confiance en se disant, quoi qu'il arrive, on avait loué notre appartement pendant un an. Donc on devait revenir le 15 juillet à Saint-Cloud. Et on s'est dit, ben, en fait, il faut qu'on vende notre appartement. Il faut qu'on soit disponible pour un projet qui arrive. Mais en tout cas, si jamais on revient à Saint-Cloud, c'est sûr qu'on n'en repartira pas. Enfin, pas tout de suite, quoi. On revient au point de départ, il faut qu'on reste en mouvement. Et étonnamment, c'est, pour moi, ça a été la décision la plus difficile de l'ensemble du processus, parce que j'ai largué les amarres. Vraiment, cet appartement dans lequel on avait été bien, heureux, voilà, qui avait vu grandir nos enfants, tout d'un coup, on lâchait vraiment la vie d'avant. Et sans vraiment sans aucun projet pour l'avenir, on ne savait absolument pas où aller, si ce n'est que, on se disait, il va falloir s'installer quelque part tout seul. Et vraiment, je pense que ça a été un peu... larguer les amarres, après on était libre pour tout projet qui a été disponible. Et on parle à des amis en leur disant, nous on a décidé de s'installer tout seul, donc on avait rencontré des amis en Corbière qui avaient acheté. C'est vrai que les Corbières, il y a du potentiel, c'est pas cher. Bon, on s'est dit, on va acheter là.
C'est très beau, très belle région.
Et puis des amis nous ont dit, mais alors vous abandonnez votre fil rouge de l'église. Et alors, bon, moi ça m'a tenu éveillée toute la nuit, donc je me suis dit, c'est vrai, c'est pas possible. On s'était quand même dit qu'on avait ce projet, etc. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé la bénisson Dieu. Et je me suis dit, mais c'est vrai que la bénisson Dieu, il n'y avait pas de vignes, mais c'était exactement ce qu'on voulait. Donc pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas où sont les vignes? Et là, tout s'est enchaîné, parce que les vignes, elles étaient à 15 km. Et on s'est dit, en fait, là où il faudrait qu'on s'installe, c'est à Ambierle. On regarde le répertoire d'installation. Il y avait un petit domaine bio à Ambierle. On l'a visité le 16 avril et le 10 août, on y était. Comment dire? C'est incroyable, mais suite à un long temps, on était complètement dans le noir. Tout d'un coup, plouf, tout s'est éclairé. D'une manière... parce qu'on avait fait un acte de foi. Enfin, vraiment, pour moi, ça a été l'acte de foi. Dans le noir, on dit... Allez, on vend notre appartement, on ne sait vraiment pas où on va aller. Et ça s'est fait, et vraiment on était un peu dans l'angoisse à ce moment-là, et on s'est dit, non mais attends, tout, quand on regarde en arrière, chaque fois qu'il y a eu un moment d'angoisse, la Providence a répondu, mais pile poil exactement, encore mieux. Donc là, on va faire cet acte de foi en disant, le Seigneur va répondre.
Et dans ce processus, Audrey parlait que le pas difficile pour elle, ça a été de vendre l'appartement. Moi, c'est peut-être plus de quitter mon boulot, quoi, deux ans avant. De quitter le travail. Quand on était un peu au pied du mur, là, avant de choisir de s'installer à l'abbaye Saint-Dieu, etc., on était allé voir une abbaye. On avait fait un tour de France, d'amis vignerons, et puis d'abbayes qui sont un peu avancées en matière d'écologie, dont l'abbaye de Maëlys. L'abbaye de Maëlys, c'est dans le plateau de la Chalosse, un peu au nord des Pyrénées, qui cultive une plante médicinale, etc. Voilà, un projet intéressant. Et le moine qui nous avait accueillis, à qui on s'était confié, etc., il nous avait dit... parce que justement, on était là vraiment un peu le bec dans l'eau. Enfin, on était un peu dans le désarroi, quand même, savoir où on allait. Et il nous a dit, vous ne verrez pas à 5 mètres, vous ne verrez pas à 5 centimètres. Comment dire? Les choses vous seront données au fur et à mesure. Et ce n'est pas pour autant que vous irez dans le mur. Mais n'attendez pas de pouvoir tirer des plans sur la comète. Enfin, n'attendez pas de savoir où vous allez aller. Allez-y, les choses vous seront données. Et effectivement, c'est vraiment... Alors, ça paraît un peu léger, ou ça paraît un peu fleur bleue, ou, je ne sais pas, très, très irréaliste. Mais non, c'est véritablement ce qui s'est passé. Et ça, c'est assez étonnant. Et ça continue d'une certaine manière. Comment dire, parce que vigneron, vous avez compris, on n'est pas vigneron depuis 20 ans. Donc, les étapes de cette année de travail de la vigne, de vinification, d'élevage du vin, le vin va bientôt sortir. Enfin, il est mis en bouteille pour en partie, pas l'autre. Tout ça, vraiment, à chaque fois, très souvent, quelques jours avant des étapes importantes, quelques semaines avant des étapes importantes, on ne sait pas comment on allait faire, que les choses se sont décantées. Telle équipe vient nous aider pour prêter des mains fortes en termes de main-d'œuvre, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre à ce moment-là. Telle solution technique se dégage à ce moment-là, conseil. Enfin, donc voilà, il y a ce mot, en tout cas, cet accompagnement spirituel, presque on pourrait dire, de ce moine à ce moment-là, il a eu la bonne parole. Évidemment, vous ne verrez pas à 5 mètres, mais vous serez accompagné. Et il y a de ça.
Et il y a une chose importante dans ce cheminement, c'est la disponibilité à la parole ou à l'événement. C'est que, oui, vous partez avec une idée, et puis quelqu'un vous dit, il y a ça, ou je vous verrai bien là, ou vous devriez rencontrer un tel. Et ça, comme on était vraiment dans le noir, on a toujours écouté ça, mais vraiment, ça nous a continuellement porté. À chaque fois... Je pense que Dieu parle vraiment dans ces personnes, dans ces rencontres et dans les événements.
Mais d'ailleurs, les voies de la Providence, si on veut parler comme ça, ne sont pas, sont pas toutes des voies ecclésiales ou grenouilles de bénitier. Je parlais de ce moine qui était un moine, mais je me rappelle très bien, on était allé voir au tout début, quand on avait donc réfléchi à racheter le petit domaine qui est devenu le nôtre, on est allé voir le président... de l'association des vignerons du coin, qui a un gros domaine, il aura une grosse trentaine d'hectares, il a une belle réputation, etc. Enfin, et donc, il m'avait demandé conseil. Et il nous avait dit, mais allez-y, parce que de toute façon, il est quand même. À peu près le conseil, c'est pas un conseil, mais ce qu'il m'avait dit, ce que je l'avais retenu, il vaut mieux valoriser 4000 bouteilles que se planter dans les grandes largeurs avec 40 000 bouteilles. Autrement dit, commencer petit, comme on commence petit, on a 4000 bouteilles à vendre cette année. Voilà, c'est plus facile, ou en tout cas c'est moins risqué que d'acheter un gros domaine ou beaucoup de surface ou des risques économiques importants. C'était, à ce moment-là, c'était la parole que j'avais besoin de recevoir. Effectivement, notre domaine a vu agricole, enfin la chambre d'agriculture, pour les registres d'installation, tout ça c'est les termes techniques, 2,3 hectares, on est en dessous de la barre de la survie minimale. Donc c'est pas raisonnable. Mais pourtant, il vaut mieux commencer comme ça, plutôt qu'investir beaucoup. De toute façon, on n'a rien à investir beaucoup, donc on ne pouvait pas aller au-delà. Mais le fait est que ce qu'il m'a dit là, à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin d'entendre pour, effectivement, avoir la confiance nécessaire pour se dire qu'on n'allait pas tout à fait dans le mur.
Et voilà, je pense que le terme central, c'est la confiance. C'est que il faut faire confiance, soit à l'événement, soit à la personne que vous rencontrez, soit... C'est uniquement les choses que vous faites dans la confiance et non pas par peur. Parce que vous avez, il y a deux mouvements. Il y a l'envie de sécurité. Et donc, vous dites, bah, action-réaction. On a vu ça beaucoup dans la vinification. On a été aidé par une technicienne de la chambre d'agriculture qui était très gentille. Mais chaque fois qu'il y avait une évolution du vin, elle disait, allez, on arrête tout, vous faites ci, vous faites ça, vous... Et après, je me suis dit, mais c'est pas du tout dans cet esprit-là que j'ai envie de travailler. C'est pas action-réaction. Parce que ça, c'est vraiment l'esprit du monde. C'est-à-dire, tout est prévu, tout est encadré. Si je veux faire confiance au vin, eh ben, je laisse aller, je vois ce que ça donne, etc. Et c'est pareil dans la vraie vie, en fait. Il faut faire confiance. Là, récemment, on a embouteillé avec l'embouteillage, enfin avec un matériel qui appartient à la CUMA et que la plupart des vignerons n'utilisent plus parce qu'ils préfèrent...
La CUMA, c'est coopérative d'utilisation de matériel agricole. Autrement dit, on n'est pas propriétaire, n'y a pas de coopérative chez nous, mais en termes de matériel viticole, on met ça en commun.
La plupart des vignerons utilisent des prestataires, donc qui ont un gros camion, voilà, parce que ça fait plus sérieux. Et nous, c'était notre grosse question. C'est la première fois, premier embouteillage. Est-ce qu'on assure les arrières? Est-ce qu'on prend quelqu'un de l'extérieur? Sachant qu'en fait, on maîtrise moins. Ou est-ce qu'on fait confiance à ce vigneron qui va nous aider à embouteiller avec un petit matériel? Bon, finalement, on s'est dit, allez, faisons confiance. Enfin, c'est plus, comment dire, ça ressemble davantage à notre mode d'action. Et on l'a fait, et d'une certaine manière, on en est ravis. Parce qu'on a fait confiance à ce vigneron. Et on se rend compte que c'est voilà, faire confiance, c'est la voie, c'est, pour tout, en tout cas, pour nous, c'est notre voie de pas de réussite, hein, mais d'avancer. Oui.
Alors c'est sûr, après, l'expérience est un chemin qui n'est clair que le chemin parcouru. Enfin, je sais pas comment. Donc, et notre expérience, c'est la nôtre, donc elle est difficilement transposable. Maintenant, voilà, vous en savez à peu près suffisamment sur qui on est ou quel chemin on a parcouru. Donc peut-être vous avez des questions, parce qu'il y a des choses qui pour nous sont évidentes, qui pour vous le sont peut-être moins dans ce qu'on a décrit du parcours ou des étapes par lesquelles on est passé. Donc voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si c'est le temps des questions, mais...
Allons-y. Est-ce que vous avez des questions sur le même parcours au passé ?
Oui, alors peut-être que dans l'Assemblée, il y a des parents, pères de famille. Et moi, la question qui me brûle l'élève, c'est la réaction ou l'accompagnement de vos enfants dans cette démarche. Est-ce qu'il y a eu des oppositions ? Est-ce qu'il y a eu d'emblée une adhésion totale ? Est-ce que vous avez dû expliquer les choses ? Comment vos enfants ont-ils pris ce changement de vie ? Et d'abord, quel âge ont-ils ?
Les enfants entre 9 et 25, donc l'aîné 25... Bon, il est séminariste, donc il est entre guillemets casé.
Mais en tout cas,
il poursuit sa vie. Il n'est pas à la maison, je veux dire, c'est ce que je veux dire. Ensuite, il y a 6 filles, 24, 22, 20, 18, bientôt, 13 et 9. Vous ne demandez pas exactement les dates de naissance parce que je ne les connais pas toutes. Ma famille. Exactement. Donc non, les enfants ont été assez longtemps dubitatifs parce que entre le moment où on a quitter nos travails respectifs et le moment où on s'est installé, il s'est quand même écoulé 2 ans ou 3 ans ?
3 ans.
3 ans. Donc les projets ont eu le temps d'évoluer dans ce qu'on présentait de nos projets à nos enfants. Donc ils étaient quand même un peu chat échaudé, craint l'eau froide. On va voir quand les enfants étaient plutôt dans l'attitude de dire on va voir quand ils auront réalisé leur truc ou avant de vraiment les croire. Voilà. Donc ils étaient un peu dubitatifs. Après, quand ils ont compris que pour les trois dernières, elles allaient nous accompagner à la campagne. Effectivement, ça n'a été pas complètement évident, non pas avant, mais peut-être au tout début. Parce qu'en région parisienne, les enfants sont autonomes, ils ont les moyens de transport aisés. Là, à la campagne, on dépend de ses parents. Ses parents qui essayent d'être écolos, ils mangent beaucoup de kilomètres par an, beaucoup de kérosène, c'est pas du tout écolo. Enfin, c'est la vie à la campagne. Donc, on dépend beaucoup de ses parents. Ils ont eu un petit peu, pour l'aîné de ses trois enfants, un sentiment de légère supériorité de la parisienne qui arrive dans un lycée qui est, oui, un peu objectivement, peut-être était moins bon du point de vue scolaire. Mais après de coup, ça s'est très bien... moi, je trouve, ça c'est Audrey va dire ce qu'elle ressent, mais ça s'est très bien... Ça s'est passé naturellement, et on l'a dit un peu tout à l'heure, le confinement a été une bénédiction. Alors, bien sûr, il ne faut pas dire que le coronavirus est une bénédiction, mais la manière dont on l'a vécu a été une bénédiction parce qu'il a permis aux trois filles aînées de nous rejoindre et de vraiment vivre ce que l'on vit, ce qu'elles n'auraient jamais vécu sans le coronavirus, sans le confinement, pardon, parce qu'elles ne seraient jamais venues qu'une semaine en vacances par-ci par-là et n'auraient pas vécu au quotidien notre rythme de vie. Donc les enfants, ils sont plutôt heureux et ils voient ça, je pense, aussi dans le regard de leurs proches ou des parents de leurs amis qui disent « Oh, ben, c'est super ce que font tes parents ». Voilà, ils sont un peu... Voilà, il y a ça qui compte, le regard des autres.
Oui, ça joue beaucoup. Et leurs amis sont plutôt amusés et intéressés par ce changement de vie. Sinon, un des fruits, c'est qu'on avait notre aînée fille qui avait commencé à travailler, qui est venue nous rejoindre et qui a expérimenté pendant le télétravail que finalement, ce qu'elle aimait dans son travail, c'était d'être entourée de personnes qu'elle aimait bien, c'était... l'ambiance du bureau et que sans le bureau, l'essence même de ce qu'elle faisait ne l'intéressait pas. Et ça a fait remonter un souhait qu'elle avait de travailler de ses mains. Et finalement, comme son CDD était renouvelé, mais pas, voilà, elle avait la possibilité de partir, elle a choisi de s'arrêter pour commencer. Là, elle commence un apprentissage de travail du cuir. Et quelque part, je me dis, c'est vrai que elle... Comment dire, on n'aurait pas changé de vie, peut-être qu'elle n'aurait pas non plus fait ce changement, parce que, voilà, elle se dit, bah, finalement, si les parents peuvent le faire, pourquoi pas moi? Donc, on en voit un fruit.
Se donne la permission.
Voilà.
Exactement.
J'ai une question concernant, on va dire, l'environnement humain de votre projet. Est-ce que vous avez rencontré des résistances ou des choses négatives parmi vos proches? Et à contrario, les amis dont vous nous parlez, vignerons, est-ce que vous les avez rencontrés facilement? Comment ça s'est organisé autour de vous, en fait?
Alors, dans nos familles, il y a eu un petit peu de tout. Je pense que, en tout cas du côté de Régis, c'était un peu réticent parce qu'il considérait que c'était déraisonnable. De mon côté, il trouvait ça plutôt amusant. Je pense que les parents de Régis ont eu le sentiment de se dire, si jamais ça ne marche pas, c'est sur nous que ça va retomber. Quoi. C'est un peu ça. Moi, mes frères et sœurs, se sont dit, de toute façon, on ne risque rien. Bon, sinon, on a été extrêmement bien accueillis sur la côte rouennaise par les autres vignerons.
On avait lu pas mal de récits de néo-vignerons qui n'avaient pas toujours été effectivement atterrissage dans le monde rural aisé, donc qui n'avaient pas toujours été attendus ou accueillis la fleur au fusil. Alors que nous, on a reçu un super accueil de la communauté des vignerons. On a la chance d'être dans cette AOC, AOP de la côte rouennaise, qui est une très grande appellation par son devenir et par la qualité de ses vins. Oui, ça, c'est une information. C'est pas une information, c'est une certitude. Mais effectivement, elle est quand même pas complètement au firmament des appellations en termes de réputation quand même aujourd'hui. Donc il y a de la place, il y a un élan, il y a une communauté qui est assez réduite de vignerons, on va être 25-27 vignerons, un apport de 109 est toujours bienvenu, et ils ont, c'est plutôt une appellation qui monte à la fois en termes de qualité, c'est objectif, en termes de réputation aussi, parce que c'est des appellations qui sont recherchées aujourd'hui, enfin qui interpellent, plutôt que les grandes appellations. Donc elle a tout pour avoir le vent en poupe, cette appellation. Et on a reçu un super accueil. On est encore surpris, je trouve, de la qualité des relations qu'on a avec ces vignerons. Notre famille d'appartenance ou d'élection serait celle de l'éco-hameau, parce qu'effectivement, on partage cet engagement, cet enracinement chrétien. C'est les raisons pour lesquelles on est à la bénédiction de Dieu, c'est pour notre foi chrétienne. Les vignerons, ils ne sont pas tous chrétiens, ou pas beaucoup, moins que plus, sur la côte rouennaise. Mais on a un super accueil. Notre matériel, encore une fois, viticole, est en Cuma, donc on travaille ensemble. On est plutôt très heureux.
Mais je pense quand même que la présence de l'éco-hameau est très importante. Parce que, même si les vignerons nous aident, c'est un monde différent. On est hors cadre, on arrive. Ils nous aident sur le plan professionnel. En revanche, c'est vrai que la présence de l'éco-hameau fait que nous avons vraiment, comme dit Régis, une famille d'appartenance. On prie ensemble toutes les semaines, on prend des décisions ensemble, il y a des projets communs, il y a des chantiers participatifs. C'est une vie qui est quand même assez riche et qui vraiment nous fait grandir. Il y a la vigne, mais il y a vraiment cet aspect communautaire qui n'est pas communautaire parce qu'on ne vit pas ensemble, mais on est porté par ce...
Par ce groupe.
Oui, par cet ensemble, par ce groupe.
Oui, j'avais plusieurs questions, mais elles ont toutes été pratiquement abordées avec les réponses que vous venez de donner. Mais par contre, donc dans votre environnement de famille ou de relations d'amis, etc., comment avez-vous vous-même réagi? Quelle importance avez-vous accordé aux gens qui ont pu dire, ils ont un peu pété les plombs, ou ils partent avec une idée un peu délirante. Est-ce que ça vous a affecté, amené à vous poser des questions, ou comment avez-vous surmonté ça? Ces réactions
d'une vraiment très peu de gêne,
trop risquées, etc.
C'est étonnant, hein, mais dans l'ensemble, enfin vraiment, 95% des gens nous ont encouragés. Étonnamment. Étonnamment.
Oui, pardon, continue.
En fait, c'est vraiment amusant. Voilà, la seule réticence vraiment forte que je vois, à part les parents de Régis, mais qui est plus compréhensible.
Ses beaux-parents, c'est compliqué.
Ça m'a vraiment frappée parce que cette personne m'a dit, mais vous êtes complètement fou, c'est dangereux pour vos enfants, vous ne réalisez pas le coût. Enfin bon. Et en fait, c'est la personne la plus riche que je connaisse. Vous voyez, ça m'a amusée de penser qu'en fait, elle qui a toutes les sécurités, en fait, elle a davantage peur pour nous. Et en fait, elle était tellement à un autre niveau de vie que nous, en fait, je veux dire, elle ne peut pas réaliser ce que c'est. Effectivement, comme disait Régis, nous, avec 7 enfants et un salaire pas très important en région parisienne, on avait très peu de marge de manœuvre. Hein. Je veux dire, il ne fallait pas qu'il y ait d'accident. On vivait déjà dans, pas de la précarité, parce que on est... voilà, c'était le
Tu vas faire pleurer dans les chaumières. Tu n'es pas du tout dans un monde précaire. Mais,
au regard d'elle, c'est vrai qu'avec... Voilà, elle nous avait déjà dit qu'on avait trop d'enfants, de toute façon. Je veux dire, à partir du quatrième, il fallait s'arrêter parce qu'on ne réalisait pas à quel point les enfants grands, ça coûtait cher. Voilà. Donc, en fait, ce qu'elle nous a dit après, ça allait dans le même sens. Et donc, je me suis dit, mais c'est vrai que je pense que la richesse endurcit le cœur, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette même liberté. Vous voyez, ça est... Enfin, pour moi, j'envoie un message un peu spirituel, quoi.
Oui, non, c'est... Après, comment dire, individuellement, là, je ne parle pas des personnes, mais les études des enfants, le logement, donc les emprunts qu'on a derrière, le lieu où on vit, enfin, pris individuellement, peuvent être des obstacles, hein. Parce qu'on est à la campagne, donc loin de tout. Enfin, que sais-je. Mais on peut... Enfin, chacun, individuellement, ça aurait pu être un bon argument pour ne pas avancer. Mais en fait, on est ému par autre chose. Voilà. Les obstacles comme ça, familiaux, nos enfants, ou matériels, finalement, ont été dépassés parce qu'il y avait cette volonté de couple d'aller dans la voie de ce changement. Et c'est évident que si dans le couple, il y en avait un qui tirait plus que l'autre dans la volonté de changer, je pense que ça aurait été compliqué. Mais là, il y avait une même volonté. Après, dans les moments difficiles, parce qu'il y en a, on n'est pas inquiet pour les mêmes choses. On n'est pas en bas, point de vue moral, que l'autre. Et donc, au même moment. Et donc, ça se compense. Pardon, il y a...
Vous parlez d'une volonté de couple. Pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui ont quand même de changements ou de changements potentiels devant eux, à quel moment est-ce qu'on est prêt pour faire des changements? Vous avez parlé du moment où ça s'est commencé par, si je trouve bien ma place, vous avez eu l'impression que vous ressentiez un manque dans votre vie, et c'est comme ça que ça s'est commencé. Alors, à partir de ce ressentiment de manque, quand est-ce qu'on est vraiment prêt en soi-même pour agir dessus, si on n'a pas la volonté de couple unie derrière soi, et on a tous ces obstacles devant soi?
C'est très personnel. Moi, je pense qu'on s'était dit... Il y avait un facteur d'âge, de l'âge du capitaine. Enfin, on se dit, voilà, devenir vigneron à 55 ans ou à 60 ans, quand même, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc vraiment, 50 ans, c'était le dernier moment où il fallait le faire, quoi. Donc ce changement de vie, on s'est dit, il y a une question d'âge. Mais en fait, à la réflexion, c'est assez idiot. Enfin, comment dire ?
Ça, c'est après coup, Régis.
C'est après coup.
C'est après coup parce que le déclic, il est arrivé. Enfin, je veux dire, on a eu cette réflexion tard. Donc, nécessairement...
On
l'a mise en œuvre tard. Oui. Mais c'est surtout... En fait, le déclic, vraiment, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre qui a fait le même chemin. Et on se dit, mais c'est possible. En fait, c'est ça. Oui. Moi, le fait de cette dame-là, dans Demain, qui dit... voilà, un jour je me suis dit, si je veux changer le monde, il faut que je me change moi-même. Je me suis dit, bah, c'est vrai, moi aussi, il faut que je me change. Puis je me disais, mais je vois pas comment du tout. Et puis tout d'un coup, une amie qui a fait ce changement, je me suis dit, mais c'est possible, il n'y a pas que les fous qui font ça. C'est vraiment, parce qu'on voulait rester quand même dans un cadre raisonnable, malgré tout, malgré ce que pouvait penser notre autre amie. Et c'est vrai que, voilà, quand j'ai vu cette femme qui avait changé de vie, ah, je me suis dit, mais c'est possible, je regarde l'offre de formation, et c'est là que je vous dis, Vigne et vin, c'est quand même important pour vous, ça vous dit peut-être rien, mais moi, c'est la vigne, et lui, c'est le vin. C'est-à-dire que moi, je voulais la nature, mais la nature, ne parlant moins à Régis, je ne voyais pas comment on pouvait changer de vie. En revanche, moi, vigne et vin, ah, et pour moi, ça fait... Je me suis dit, mais c'est possible, il y a une formation, il y a quelqu'un qui l'a fait... Eh bien, on y va. Voilà, c'est... Quand je dis, c'est des flashs. C'est-à-dire, de temps en temps, vous avez... Ah, là, il y a un flash. Il faut le suivre. Vous voyez, vous avez plein de désirs dans votre cœur. Mais de temps en temps, ça rencontre un écho à l'extérieur. Et là, vous dites ça, il y a quelque chose. C'est possible. Peut-être que... Il faut que je me fasse confiance, en fait. Il faut que je fasse confiance à ce rêve que j'ai dans le cœur.
Donc, si j'ai bien compris, il s'agit de trouver la bonne personne et une constellation de circonstances qui se tissent bien.
Ça s'appelle la providence.
Un projet uni.
Non, ça s'appelle la providence. C'est vrai que ça peut paraître... Là, je ne sais pas du tout si notre chemin peut éclairer quiconque. Hein. Je n'ai pas de leçon à donner.
Mais je pense que qu'on soit seul, en couple, en groupe, c'est pareil. C'est, vous avez tous, je veux dire, on a... Nous, on était en couple, mais ça pouvait être aussi un obstacle, parce que moi, j'avais ce désir et Régis ne l'avait pas. Enfin, donc, ça peut toujours... Enfin, voilà, il a fallu qu'il bouge lui aussi. Et moi, que je bouge vers lui. Enfin, et pour quelqu'un de seul, à la limite, quelquefois, c'est plus facile, parce qu'il n'y a que vous à bouger. Vous voyez ? Non, mais je veux dire que c'est juste... C'est juste, quand je dis le Seigneur parle à travers les personnes et les événements, là, parfois, vous vous dites, bah oui, il y a une proposition qui est faite, qui vous parle. Vous dites, bah, est-ce que ça ne serait pas pour moi, quoi ? Si je l'ai, c'est pas un hasard. Si je la vois, cette proposition, ce n'est pas un hasard. Donc, le truc, c'est de se dire, quand on a cette opportunité, quand on entend une parole, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on se dit, bah non, je suis toute seule ? Ou alors, oh ben non, mon mari ne veut pas. Ou alors, ben non, c'est trop cher. Ou alors, c'est pas raisonnable. Voilà, c'est tout. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être que c'est le moment.
On prend encore deux questions. Puis après, on va passer une autre séquence. Mais à nous, ils sont là encore après. Je voudrais continuer à leur poser des questions à la pause, etc. Ne vous inquiétez pas.
Quelle a été votre motivation pour faire les routes du monde ? Son organisation était-elle prévue ?
La motivation, elle était simple, c'est que notre idée initiale, c'était l'association avec un monastère. On voyait bien qu'en France, il y en avait quatre, enfin trois catholiques, plus un orthodoxe, et que ça allait prendre du temps, c'était compliqué. Et donc, on voulait se donner du temps. Et on voulait se donner du temps et de l'expérience. Et puis, moi, c'était ça, principalement. C'était sachant que, voyant qu'en France, ça ne se décanterait pas tout de suite, dans les mois qui allaient suivre, on se dit, bon, n'abandonnons pas, ça peut quand même se faire, on sentait des petites choses, mais à eux aussi, il leur faut du temps. Donc si on revient avec un peu plus de bagages, d'expérience, on sera peut-être un peu plus crédible, ou nous aussi, on aura... Voilà. Donc, et puis c'était se dire aussi, mais ce tour du monde, on ne l'avait pas rêvé, mais... c'est un rêve, donc lançons-nous, puisqu'on en a à la fois la nécessité, acquérir de l'expérience, et la possibilité. On n'avait pas de domaine à racheter, pas d'endroit à s'installer, pas de boulot, etc. Donc ensuite, l'organisation, elle a été finalement hyper simple.
On a recherché sur Internet, alors on s'était dit, voilà, on veut commencer par Israël, je vous ai dit, par Cana, et... Donc j'ai écrit au monastère de la Trône et j'ai dit, ben voilà, nous on voudrait faire des stages dans les monastères catholiques. Est-ce que vous nous acceptez en famille, hein, parce qu'on venait avec trois enfants. Et puis, ben, tous les deux, on travaillerait pour vous. Et le père abbé nous a dit, pas de problème. Moi, je pensais qu'il allait dire non. Ben non. Il dit oui, donc en fait, on s'est dit, ben, c'est merveilleux. Et puis, on s'est dit, on ne peut pas arriver en Israël. Nous, on n'était jamais allé en Israël sans avoir fait un pèlerinage avant. Donc, on s'est dit, voilà, on va emmener tous les enfants pour faire un peu un voyage initiatique, parce qu'on va en laisser ensuite 4 en France. Mais on veut vraiment mettre ça au cœur de notre voyage, quoi. Ce
pèlerinage.
Ce pèlerinage, voilà, sur les pas de Jésus. Et c'est vrai que ça a été extraordinaire. Après, là, pour le voyage lui-même, il a fallu quand même être très souple, parce qu'il y a eu beaucoup de projets qu'on a eus et qui ne se sont pas réalisés. On voulait aller au Liban, en Amérique latine. Il y a eu des gens qui nous ont dit oui, puis qui nous ont dit non après. Je veux dire, il fallait rester très souple. Alors, aujourd'hui, maintenant, dans notre éco-hameau, c'est vrai qu'un voyage autour du monde, là, en plus, avec tout ce qui s'est passé, ça paraît... Enfin, ils nous disent, mais c'est horrible ce que vous avez fait.
Ça va pas. Votre bilan carbone est très mauvais.
Donc, c'est pour dire qu'on est sur un chemin. À l'époque, ça nous dérangeait pas du tout. Ça nous faisait rêver de partir en voyage comme ça. Maintenant, on se dit, c'est vrai que... On a pu, vous voyez, parce qu'on habitait pendant un mois sur le lieu, donc on a vraiment rencontré des personnes, rencontré les gens, vécu vraiment un partage.
Puis travailler avec elles.
Et travailler, mais je veux dire, le fait de travailler pendant un mois, ça crée des liens. C'est pas un voyage, vous voyez, on n'a pas fait Israël, mais ce qui m'amuse, c'est qu'aujourd'hui, là, voilà, maintenant, quand je suis à Ambière, je me dis, mais en fait, ça ne me viendrait pas à l'idée maintenant de refaire ça. C'était un moment qui nous a aidés, parce que ça nous a fait découvrir plein de choses. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on souhaite vraiment, c'est s'enraciner, et puis on n'a plus besoin de la même chose.
Après, si derrière votre question, là, qu'est-ce qu'on a fait de nos enfants, les deux dernières, les plus jeunes, sont venues avec nous. Donc, faire une espèce d'école à la maison, les temps où nous, on travaillait dans les monastères, on travaillait de longues heures, de 8 heures à 8 heures, souvent. Et donc, les deux petites, qui avaient 8 et 12 ans, travaillaient, encadrées par une de leurs sœurs aînées, qui avait 22 ans, et qui était, 20 ans, pardon, qui était en fin de licence et qui ne savait pas quoi faire encore pour la fin de ses études supérieures. Donc, elle avait une année, entre guillemets, à occuper. Et donc, elle est venue avec nous faire la classe aux deux petites, et puis au-dessus, il y en a une qui est partie en Allemagne pendant un an, dans une famille, celle qui était en seconde, voilà, une qui était en terminale, c'était un peu plus délicat, la terminale, mais qui était chez des amis, et une, les deux autres en études supérieures, et le dernier séminariste. Donc voilà, après les enfants, on les case, entre guillemets, chacun trouve sa place, et ça c'est fait. Voilà.
Merci. Je voulais d'abord vous dire merci pour ce témoignage que je trouve très très lumineux et édifiant. Et pour rejoindre un peu ma réflexion personnelle et qu'on arrive dans les deux, je voulais savoir comment est-ce que déjà vous avez vécu de grandes périodes de doute, comment vous les aviez traversées, et de l'autre côté plus réjouissant, comment votre marche avec le Seigneur a été impactée par cette vie-là. Comment est-ce que vous avez reçu de lui en même temps essayer de discerner sa volonté pas après pas, on sent clairement qu'il y avait aussi cette volonté d'être unifié avec notre Dieu. Et voilà, si vous pouvez nous dire quelques mots, quelques expériences. Pardon. Mm-hmm.
Dans la première partie, c'est
les doutes. Les doutes.
Ah, les doutes. C'est vrai que, étonnamment, c'est un peu comme dans une conversion. Au début, vous êtes porté. Donc, quand on a commencé à cheminer vers le changement de vie, etc., c'est comme si toutes les portes s'ouvraient. Vous voyez, c'était tout le monde était enthousiaste. Voilà. Le premier moment de doute, c'est quand il y a eu un peu une crise. Il a fallu que Régis décide s'il partait de son travail ou pas. Ça a été un peu un moment difficile parce qu'il a fallu faire confiance.
Oui, voilà. ça faisait 18 ans que je travaillais au MEPS, quand même un bail. Et c'était, voilà, j'étais quand même à la fois très proche et voilà, donc c'était compliqué. Ouais.
Et puis voilà, quitter son travail, même s'il y a quelque chose derrière, bah, c'est vous quitter un peu la sécurité. Donc là, ça a été un. Et vraiment, là, c'est ce qui a joué, c'est le fait de se dire, voilà, on fait confiance. On a ce souhait, on a ce désir, le fait d'être ensemble tous les deux, finalement. on fait confiance, on y va, parce que quelquefois il faut aller de l'avant, il faut sortir de sa zone de confort. Moi je crois vraiment qu'en fait on n'évolue pas quand on ne sort pas de sa zone de confort, donc il faut qu'à un moment on casse les sécurités, parce que nos sécurités au début c'est bon, et puis au bout d'un moment ça enferme. Donc il y avait ce souhait, il y a eu cette possibilité, mais c'est vrai que là pour le coup heureusement qu'on a été deux, parce que j'ai dit à Régis, vas-y, tu on va le faire, enfin, on va y arriver, c'est le moment, c'est un signe pour moi qu'on peut le faire ensemble. Il y a eu d'autres moments où c'était moi qui avais des moments de doute, et en fait c'est Régis qui m'a dit, allez, vas-y, il n'y a pas de... Je pense que c'est extrêmement personnel, mais moi le moment où je suis partie dans le sud pour 15 jours en stage, vinicole, ça paraît vraiment rien, mais ça voulait dire, c'était le 25 août, c'est-à-dire je ne serais pas là pour la rentrée scolaire des enfants. Dans mon Flixbus, j'étais tétanisée en me disant, mais je suis complètement folle, quoi. J'abandonne ma maison, j'abandonne mes enfants, pourquoi ? Voilà. Ça, c'est vraiment un moment... Et j'ai vu... Enfin, j'avais déjà vécu des moments comme ça. Et en fait, la seule manière de lutter contre ça, c'est le chapelet. Moi, dès que j'ai une attaque d'angoisse, de doute, je dis le chapelet et je dors. Et après, ça va bien. Mais vraiment, chaque fois que je... parce qu'il y a eu un moment, l'année dernière, où en fait, on était vraiment... Vraiment, on ne savait pas où aller. Et donc, c'était vraiment de l'incertitude. C'était palpable. Et c'est là où on s'est dit, voilà, tout s'est toujours bien passé, à chaque fois il y a eu une réponse, donc vraiment, on fait le choix de ne pas s'inquiéter. C'est un acte de foi, et on a eu la réponse, mais ça n'empêche qu'il y a toujours des accès un peu d'angoisse. Vous savez, tout à coup vous vous dites, mais ça, parce que l'angoisse, elle se déplace, elle ne va pas se mettre là-dessus, mais elle va se mettre sur un enfant, elle va se mettre sur un truc. Et là... Le fait de dire le chapelet, pour nous, ça nous a toujours... Oui, ça apaise. Tout de suite, c'est comme s'il y avait une attaque. Le chapelet, c'est bon.
Après, pour le deuxième volet de la question, moi, je dirais que, comment dire, l'expérience... Enfin, c'est encore assez ténu ou difficile pour moi de le verbaliser complètement, mais l'expérience du travail de la terre approfondit, ma foi, ou la rend... plus palpable, plus matériel, plus tangible. On a parlé de la triple alliance, l'homme avec Dieu, la femme avec l'homme, l'homme avec la femme, et l'homme avec la création. Il y a vraiment une dimension spirituelle à travailler la terre. Enfin, c'est très... c'est pas des mots, hein, mais c'est... Je sais pas comment l'exprimer. Enfin, ça se vit, mais Audrey saura peut-être mieux l'exprimer moi. Mais il y a vraiment... Bon, bien sûr, il y a tous les... paraboles de la Bible autour du monde agricole, c'est évident, et du vin. Oui, on est une religion de l'incarnation. Et cette incarnation, pour moi, se vit vraiment très concrètement dans la création. Dans la création, dans le moment où je travaille ma vigne, et c'est pas moi qui crée, encore une fois, là, je tire pas sur ma vigne pour qu'elle pousse. Tout ça est donné. On accompagne la création. Voilà.
Bon. Oui, je pense que Dieu se dit dans la création. C'est-à-dire que quand on... Moi, le nombre de fois où je me suis levée, j'étais quand même fatiguée, je partais pour la vigne, et les heures passées, et à midi, je me disais, déjà midi, mais j'étais emplie d'énergie. Vous voyez, comme si le fait de travailler la vigne, c'est... Je me sentais vraiment bien, et... souvent, j'essaye de dire des chapelets, mais là, j'ai plus de mal, parce qu'en fait, je me rends compte au bout d'une heure que j'ai complètement oublié, enfin, j'ai arrêté. Mais c'est un peu comme une contemplation, c'est comme une prière. Et je vois récemment le fait de... Là, je voyais certains accès de maladie dans la vigne, et en fait, je chante le Magnificat, parce que je me dis, mais c'est voilà, ça repousse les champignons, en tout cas, en moi, en tout cas.
Oui, extraordinaire. Je travaille très bien, oui. Une vraie agricole de première bourre.
Bravo.
Embauché là.
Alors, merci beaucoup. Momentanément, on va s'arrêter là. Parce que, en fait, l'idée, c'est que vous travaillez un peu aussi, quand même. Hein. Et notamment, à partir de ce témoignage, l'idée, c'est que vous puissiez en fait en tirer la substantifique moelle pour vous. Alors du coup, on voudrait vous proposer de finalement d'avoir de réfléchir autour de trois questions. La première, c'est qu'est-ce qui m'a touché dans ce témoignage? Ça, c'est plutôt votre feeling, vous voyez. Qu'est-ce qui me touche fondamentalement? Deuxièmement, qu'est-ce que j'en retiens? Là, c'est faire un petit effort qui est plutôt plus cérébral, plus analytique peut-être. Qu'est-ce que vous retenez en fait de ce qui vient d'être dit? Et puis troisièmement, question d'ouverture pour vous, en quoi ça m'inspire par rapport à la façon dont je désire orienter, réorienter ma vie? Parce que vous ne venez pas à cet atelier par hasard. Alors, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de prendre un temps de préparation seul. C'est-à-dire, on vous laisse 5 minutes là, pour prendre ces trois questions et déjà y répondre pour vous. Ok ? Et puis ce que je vous propose après, c'est on va faire des groupes de 3. Donc vous vous retournez juste là avec vos voisins, ceux qui sont à proximité de vous, par 3. Puis si on est un nombre impair, il y aura un groupe de 4, c'est pas grave. Et puis vous partagez aux autres, si vous le voulez, hein, y a pas d'obligation, hein, si vous le voulez, eh bien, le fruit de votre réflexion sur ces trois questions. Ça vous va ? Alors, on part déjà pour 5 minutes, personnellement, sur ces trois questions. Et puis ensuite, je vous dirai d'aller en soupe. C'est bon ? Non, c'est pas bon ? Ah, ok.
Oui, c'est bon.
Ok. Alors, on y va.